Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée à distance par Marguerite Caton, Xavier Martinet, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown et Bertille Bourdon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Inès De Bruyne.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Imaginons ensemble l'itinéraire d'un masque depuis l'usine où il a été fabriqué jusqu'à l'hôpital où il sera livré. Cette usine, nous allons la situer en Chine, mais elle pourrait être au Vietnam ou encore au Mexique. L'ouvrier qui fabrique ce masque en porte un lui-même et là où il travaille, les machines fonctionnent 24 heures sur 24. Parfois, les matières premières manquent. Il y a trop de commandes. Une fois terminé, notre masque est expédié par avion et s'il n'est pas intercepté sur le tarmac, il sera embarqué dans un camion avant de finir sa vie après usage dans la poubelle d'une salle de réanimation. Voilà un concentré de mondialisation qui fait ressurgir à lui seul un vaste débat, celui de la relocalisation. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure, comme chaque jour, d'Entendez-vous l'écho. Pour ce deuxième épisode de notre série inédite consacrée au prix de la vie, nous recevons El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine, auteur de cet ouvrage « Mondialisation et délocalisation des entreprises » dont la dernière édition est parue en 2017 aux éditions de La Découverte. Bonjour El Mouhoub Mouhoud.
Bonjour.
Merci de nous accorder une heure de votre confinement. Je vous propose de commencer cette émission avec Eric Orsena et son voyage au pays du coton ou petit précis de mondialisation.
Se promener dans ses coulisses, ses entrailles de Datang, c'est visiter l'histoire de l'industrialisation. En 5 pas et 2 minutes, on change de siècle. À droite de la ruelle, c'est le 20e. Les enfants ouvriers décrits par Dickens sont un peu grandis, mais l'environnement n'a pas changé. Même vacarme, même puanteur, même taudis pour dortoir, même pauvre soupe pour repas, même fatigue et même résignation dans les regards. De l'autre côté de la même ruelle, voici le temps présent. Clarté, propreté, automatisation. Une fois livré en Europe, qui peut savoir de quel côté de la ruelle, c'est-à-dire de quel siècle, vient une paire de chaussettes? Aucun règlement, notamment d'hygiène, ne semble unifier ces mondes. Liberté aux entrepreneurs. Sans doute les autorités veulent-elles croire que les conditions s'amélioreront en même temps que croîtra le chiffre d'affaires. Ils sont ainsi plusieurs milliers d'ateliers, derrière les calmes façades de Datang et ses larges avenues indolentes, auxquelles il faut ajouter beaucoup d'autres milliers dans la vingtaine de villages environnants. Au total, 12 ou 13 000 entreprises familiales ne s'occupant que de chaussettes. On travaille tant qu'il y a des commandes. Mais comme les commandes ne manquent jamais, on ne cesse de travailler. Souvent 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Pour le même salaire, 1000 yuan par mois, 100 euros. Nourris, logés, dans des dortoirs. Un bon patron accordera, une fois l'an, une semaine de répit. L'occasion de retourner embrasser les siens à l'autre bout de la Chine.
Extrait du récit de voyage d'Eric Orsena paru en 2006. Aujourd'hui, la crise du coronavirus et les pénuries de masques et de tests qui l'accompagnent ont relancé le débat sur les limites de la mondialisation. C'est un débat ancien qui prend une nouvelle forme, El Mouhoub Mouhoud.
Oui, ça prend une nouvelle forme parce que, au grand jour, le grand public, en temps réel, découvre des ruptures d'approvisionnement, soit de masques, soit de tests, de médicaments. Et ceci, évidemment, crée un choc psychologique. Mais en réalité, les choses sont plus complexes et le phénomène, effectivement, existe depuis très longtemps. Et il faut simplement comprendre pourquoi, dans cette industrie pharmaceutique, par exemple, les risques de rupture d'approvisionnement aussi graves sont pris. Quelles sont les logiques des firmes? Comment elles organisent leur division du travail? Quelles sont leurs motivations? Et quelles sont, effectivement, les conséquences ensuite pour la collectivité?
La France a pris conscience, avec cette épidémie, de son extrême dépendance à l'égard de la Chine et de l'Inde pour toute une série de biens médicaux, à tel point que la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a parlé de dépendance morbide.
Oui, parce qu'en fait, la dépendance, elle est hors Union européenne, elle n'est pas valable pour tous les produits, hein. Il n'y a que 6% des importations de biens intermédiaires qui proviennent hors de l'Europe. Les échanges sont très fortement régionalisés déjà depuis longtemps. Vous savez que les chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire le fait de découper un produit en morceaux et de le répartir dans des pays différents pour ensuite le réimporter de façon à ce qu'il soit consommé en France, après avoir bénéficié d'avantages de coûts lors de la production, la fabrication, l'assemblage. C'est ça que dont on parle aujourd'hui, hein, des chaînes de valeur, des délocalisations verticales. Eh bien, ça a commencé déjà à reculer, à se re-régionaliser à partir de 2010, après la crise des subprimes. Donc, c'est pas l'ensemble des activités qui sont dépendantes. Ici, on a affaire à un secteur très particulier, qui est un secteur dans lequel vous avez une socialisation de la demande à l'aval, puisque la sécurité sociale assure le débouché en quelque sorte. Vous avez des phénomènes de réglementation des prix par des agences publiques. Il y a une très forte régulation, hein, des prix des médicaments, même s'il y a des contournements, etc. Et puis vous avez des droits de propriété intellectuelle qui durent 20 ans aujourd'hui depuis les accords de l'OMC, qui assurent des prix de monopole sur des produits nouveaux, brevetés. Donc vous avez une industrie assez complexe, et au milieu de la chaîne de valeur, donc vous avez deux grands pôles, si vous voulez, la recherche et développement d'un côté, qui est très massif dans ce secteur de la pharmacie, parce que le mode de concurrence dominant dans le secteur, c'est la course à l'innovation. Et puis à l'aval, vous avez le marketing aussi, hein, qui joue un rôle assez important pour faire connaître les médicaments, leur efficacité, les publicités, etc. Et puis au milieu, vous avez la fabrication des molécules, des principes actifs, qui finalement, une fois que le médicament est bien connu et autorisé par les autorités de régulation, et qu'il est mis sur le marché, ensuite la phase intermédiaire de fabrication a peu de valeur ajoutée finalement, et c'est celle-là qui est délocalisée massivement dans deux pays, l'Inde et la Chine. En effet, à peu près 80% des principes actifs proviennent de ces deux pays, et il faut comprendre pourquoi finalement, quel est l'intérêt de délocaliser et de prendre ce risque d'une dépendance de très peu d'acteurs. Parce que justement, contrairement à la filière textile ou à d'autres types de filières, vous avez une multiplicité d'acteurs, de fabricants. Ici, vous avez peu de fabricants. Et ils sont évidemment, quand vous voulez à la fois profiter des coûts de main-d'œuvre bas des ingénieurs, des chercheurs, etc., ils sont essentiellement en Chine et en Inde. Et donc, vous avez le risque que prennent les groupes pharmaceutiques d'arriver à des ruptures d'approvisionnement en période de crise sanitaire grave comme celle d'aujourd'hui.
Alors c'est intéressant, effectivement, vous l'avez dit, 80% des principes actifs sont désormais importés de Chine et d'Inde. C'était 20% il y a 30 ans. On peut se demander en effet ce qui justifie une telle concentration de la production. Est-ce que c'est lié essentiellement au fort budget de recherche et développement que nécessite une telle industrie?
Oui, mais je crois que pour comprendre la mondialisation aujourd'hui et les fragmentations de chaînes de valeur, il faut revenir aux fondamentaux de l'économie, parce que sinon, je veux dire, on ne fait que décrire et pas comprendre les logiques. En réalité, ce qui est à l'origine de la délocalisation verticale, il y a deux formes de délocalisation. Il y a des délocalisations qui consistent à aller vendre des produits sur place pour s'accaparer des marchés, parce que les exportations ne sont pas la meilleure façon d'aborder les marchés mondiaux. Et puis il y a les délocalisations dont on parle en ce moment, qui sont liées à la fragmentation de la chaîne de valeur, à la découpage en morceaux depuis l'amont, c'est-à-dire la conception, la recherche développement, jusqu'à l'aval, la vente du produit, la distribution, le marketing, etc. Eh bien, qu'est-ce qui préside à l'idée d'aller les délocaliser, les morceaux, dans différents pays? Bien, c'est simplement la théorie de la division du travail. C'est-à-dire, c'est la division du travail qui est étendue, non pas seulement à l'échelle domestique, mais à l'échelle internationale. Et en fait, depuis 20-30 ans, on a deux logiques de division du travail qui se confrontent dans les secteurs comme celui de la pharmacie, de l'électronique, dans les secteurs à haute dépense en recherche et développement, dans les secteurs dans lesquels la concurrence est plutôt oligopolistique, faite de petits nombres d'agents. Et donc là, ici, la course à l'innovation de produits est le mode de concurrence dominant. Donc vous allez avoir deux logiques de division du travail qui vont se confronter. Une logique que j'appelle cognitive, fondée sur la recherche de l'excellence sur des blocs de savoir, des blocs de compétences. Et là, pour cette industrie, les deux blocs de compétences sont la recherche et développement, la capacité à mettre sur le marché de nouveaux produits, et de l'autre côté, et le marketing de l'autre. C'est d'ailleurs pareil pour beaucoup d'industries qui sont caractérisées par, justement, de fortes dépenses de R&D, la course à l'innovation comme mode de concurrence dominant, et un petit nombre d'acteurs, des oligopoles mondiaux qui se partagent le marché. C'est le cas, par exemple, de l'informatique, de l'électronique, c'est le cas de l'automobile, c'est le cas de la chaussure de sport, Adidas, Nike, etc. Et vous avez finalement, une première façon de découper les processus de production, c'est de dire quels sont les blocs de compétences sur lesquels je dois absolument m'assurer l'excellence et travailler avec les meilleurs. Et là, recherche, développement, marketing. Et puis au milieu, comme pour la chaussure du sport, la tige, les morceaux, etc., eh bien, on peut les faire fabriquer ailleurs et on intervient une deuxième division du travail qui est une division taylorienne du travail, une division c'est par tâche, très fine, découpée pour minimiser les coûts, augmenter le rendement de chaque opération. Et en fait, c'est bien l'articulation de ces deux divisions du travail qui font que les firmes peuvent à la fois jouer le rôle moteur comme innovatrice à l'échelle mondiale, et puis en même temps utiliser les coûts de main-d'œuvre très bas ou les conditions de production très faibles dans des pays à bas salaire pour à la fois financer les budgets de recherche et développement qui sont extrêmement élevés en effet, les budgets de marketing qui sont extrêmement élevés également, mais aussi ce qui s'est passé lors de la dernière mondialisation, c'est-à-dire depuis les années 80 en gros, c'est l'avènement de la finance qui va autoriser le financement d'activités immatérielles risquées que le marché ne peut pas faire tout seul, mais en même temps, cette finance exige également des rendements, et donc la délocalisation des phases intermédiaires de production, de fabrication est juteuse au sens où elle va autoriser précisément d'assurer les trois types de logiques, recherche-développement, marketing et distribution des dividendes aux actionnaires.
El Mouhoub Mouhoud, sans doute faut-il différencier les biens médicaux dont on parle, que l'on parle de matériel, de masques, que l'on parle de tests ou encore de médicaments comme le curare qui manque en l'occurrence dans la pandémie actuelle. Aujourd'hui, la recherche de la baisse des coûts, c'est ce qui explique que la Chine et Taïwan représentaient 70% de la production mondiale de masques avant la crise, et c'est ce qui explique qu'on a fait face à des pénurie importante car le marché a été pris d'assaut et que la production chinoise a été elle-même largement ralentie par l'épidémie.
Oui, non, mais tout à fait. Si vous comparez cette industrie à ce qui se passe dans d'autres secteurs, vous vous dites les coûts salariaux par unité produite, qui est le bon critère pour mesurer la compétitivité. C'est pas le niveau du salaire chinois par rapport au niveau du salaire français, c'est le salaire sur la productivité en Chine par rapport au salaire sur la productivité en France ou aux États-Unis. Pourquoi les chaînes de valeur mondiales dans la plupart des secteurs ont reculé depuis 2010, hein, le commerce augmentait deux fois plus vite que la production avant 2008, et après 2010, il augmente au même rythme pratiquement. Donc il y a bien un ralentissement du commerce de biens intermédiaires, de morceaux de biens liés à ces stratégies de fragmentation des chaînes de valeur, et l'essentiel du ralentissement est dû à la chute de la Chine dans les exportations de produits assemblés en Chine et réexportés à partir de la Chine. C'est vraiment ça qui s'est passé. Donc en fait, vous pouvez pas expliquer ce qui se passe dans les médicaments uniquement par des problématiques de compétitivité, parce qu'il y a plein de secteurs pour lesquels ces problématiques, ça s'est traduit déjà par des relocalisations et des recompositions des chaînes de valeur à proximité des marchés sur des bases régionales. Surtout que nous ne sommes pas dans des secteurs dans lesquels il y a des obstacles techniques à l'automatisation des segments d'assemblage, comme c'est le cas par exemple pour l'habillement ou pour les matières souples, sauf pour les masques peut-être qui sont une matière souple. Et donc en fait, vous pouvez automatiser, robotiser les chaînes d'assemblage, de fabrication de médicaments, d'ailleurs c'est assez robotisé. Donc il faut vous interroger sur les motivations réelles d'aller faire dans des secteurs stratégiques au sens où il y a peu d'acteurs, où il y a un impact en plus sur la collectivité qui est très fort, où les groupes, pourquoi les groupes sont-ils comme ça intéressés par utiliser des bases de produits de fabrication des principes actifs dans des pays pour lesquels les coûts salariaux unitaires sont pas très faibles, mais ils sont plus bas qu'en France pour un niveau de qualification de la main-d'œuvre extrêmement élevé, c'est-à-dire pour des ingénieurs, des personnels de recherche et développement, etc. Vous ne pouvez comprendre cela qu'en regardant la manière dont se forment les prix dans le secteur et dans la manière dont se mène la concurrence dans le secteur. Et c'est comme ça que l'entreprise de masques qui était en Bretagne a été ensuite délocalisé en Tunisie, mais pas pour des motifs de faible performance, c'est simplement parce que dans le jeu stratégique du groupe qui a racheté la boîte, c'est très bien d'ailleurs décrit dans une enquête menée par Radio France, hein, il y avait une stratégie parfaitement de ce type, on la considérait peu rentable eu égard aux avantages en termes de gain boursier que ça pouvait opérer en l'arrêtant en France. quand les commandes publiques ont chuté.
El Mouhoud, vous me fournissez une transition parfaite. En effet, j'allais y venir à cette usine de Plaintel dans les Côtes d'Armor qui fabriquait jusqu'à 200 millions de masques par an à la fin des années 2000 avec la crise du SRAS et du virus H1N1. Elle a été fermée donc il y a 2 ans par le géant américain Honeywell. Son ancien directeur regrette encore cette décision.
On était le principal fabricant de masques pour la France. Et on fabriquait non seulement pour la France, mais avec le réseau du groupe, on vendait des masques un peu partout dans le monde. L'entreprise de Plaintel était parfaitement rentable. Mais probablement que Honeywell a considéré que le niveau de rentabilité n'était pas dans leur ratio. Et ils ont préféré laisser mourir cette entreprise plutôt que de la laisser vivre et puis de maintenir des emplois. Parce que quand même, il y avait aussi un savoir-faire, il y avait une connaissance. Les masques pliables qu'on voit là, ça a été inventé par le service R&D de l'usine, donc il y avait du potentiel.
L'usine Plaintel a périclité en partie à cause de la diminution des commandes de l'État. Il faut dire qu'en 2008-2009, les achats visant à lutter contre la grippe H1N1 ont représenté 450 millions d'euros dépensés pour rien, selon la Cour des comptes. Après cela, les pouvoirs publics ont voulu se prémunir contre le risque d'une nouvelle gabegie, El Mouhoud.
Oui, tout à fait. Là, on a quelque chose d'assez spécifique quand même, parce que la demande est une demande socialisée qui passe par les marchés publics. Et là, la demande était très forte. Et puis ensuite, les gouvernements, à partir de 2011, ont arrêté ces commandes publiques. Donc, l'entreprise s'est trouvée dans la nécessité de rechercher des marchés. Elle était productive, comme le disait le reportage. Il n'y avait pas de problème dans cette matière. Mais effectivement, dans le jeu stratégique des groupes, dans les stratégies de downsizing, de réduction des coûts pour améliorer les résultats boursiers, eh bien, il y avait, c'est une petite entreprise qui gênait de cette manière-là. Vous avez eu, d'ailleurs, historiquement, c'est assez intéressant parce que les salariés comprennent ce qui se passe. Ils se disent, mais comment une unité de production efficace, complètement automatisée, par exemple, comme ce fut le cas historiquement avec l'unité de Virvold de Renault en Belgique, voilà, en 2000. On l'avait arrêtée alors qu'elle était super productive, des robots de dernière, etc., une main-d'œuvre super qualifiée. Et donc, on n'avait pas compris pourquoi, quelle était la motivation d'aller la chercher. Dans ce jeu-là qui se passe quand les groupes sont des groupes très traversés par la finance mondiale, eh bien ce sont des stratégies de délocalisation, non pas défensives. Ici, c'est des stratégies offensives, c'est-à-dire que le groupe a une stratégie globale d'optimisation et il optimise bien sûr sa fiscalité, ça c'est un autre sujet, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il optimise aussi, et il arbitre entre les différentes unités de production de façon à s'assurer des revenus boursiers les meilleurs. Et là, je citais le cas de Virvold, à Renault Virvold, quand cette unité avait été abandonnée, délocalisée, eh bien, les salariés n'avaient rien compris parce que précisément, elle était très productive. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien, parce que les actionnaires et la stratégie du groupe Renault avaient d'ailleurs bien prédit les choses. Ils avaient prédit que le marché européen allait diminuer dans l'avenir et que le marché allait exploser dans les pays émergents. Et donc, il fallait être plutôt dans les pays émergents, en Amérique du Sud, etc., pour pouvoir augmenter ses ventes. Et ça avait effectivement, les coûts de sortie, les coûts d'abandon de l'usine de Virvold Renault n'ont été rien par rapport aux gains boursiers que le groupe a pu avoir. Mais là, ce sont des biens qui ont une externalité collective, qui ont un impact sur la société. Et c'est pour ça que vous avez cette prise de conscience soudaine des difficultés qu'ont les stratégies de fragmentation des chaînes de valeur et de leur dilatation à l'échelle mondiale pour profiter des différences de coûts de production.
Mais alors, est-ce que le problème se situe vraiment dans le fonctionnement de ces chaînes de production mondiale? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt y voir un problème d'organisation en flux tendu de la production, El Mouhoud? C'est un problème de stock en réalité.
Oui, alors exactement. C'est-à-dire que, au fond, si vous revenez là encore une fois dans un ouvrage qu'on avait fait avec Dominique Pillon qui s'appelle « Le savoir et la finance » en 2009, « Liaison dangereuse au cœur du capitalisme contemporain », décrivez un peu ces mécanismes-là. Ce que vous avez eu quand même depuis les 30 dernières années, vous avez deux choses qui ont modifié radicalement la manière de produire des biens. La première chose, ça a été la mise en place des équipements automatisés programmables, flexibles, comme, si vous voulez, les robots capables d'être, on modifie les interfaces et on peut produire une variété élevée d'un même bien, d'un même produit, une Renault, une Twingo, plusieurs modèles, sans changer d'équipement, sans opérer ce que nous, les économistes appellent des coûts irrécupérables du capital. Avant l'avènement de ces technologies, qu'on appelait autrefois dans les années 80-90 la productique, etc., avant l'avènement de ces technologies, quand vous changez de modèle, vous changez d'équipement. Et donc, vous perdiez l'investissement sur le capital de l'équipement précédent. Et comme la demande est devenue dans les pays capitalistes développés de plus en plus versatile, c'est-à-dire qu'elle change d'un produit à l'autre très rapidement, hein, avec la saturation des besoins primaires, eh bien, les groupes ont développé très fortement ce type de technologie flexible, c'est-à-dire l'introduction des technologies de l'information et de la communication au cœur des équipements de production pour fabriquer des petites séries. Et puis, en même temps, ça rendait possible d'organiser le juste à temps, c'est-à-dire le raccourcissement du temps et la nécessité d'avoir zéro stock pour coller au plus près de la demande, de façon à ce que l'on n'ait pas de coûts de gestion des stocks et que l'on n'ait pas non plus de coûts de problématiques d'invendus sur certains biens par rapport à d'autres biens qui seraient préférés par les consommateurs. Donc coller au plus près de la versatilité de la demande.
Et on paye le prix de ce fonctionnement aujourd'hui.
Exactement. Et comme en même temps, parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, ah ben oui, mais à ce moment-là, il vaudrait mieux produire en France, puisque les circuits courts feraient que, grâce à ces technologies de l'information qui réduisent la part du coût de main-d'œuvre dans le coût total, et qui en plus favorisent les économies de variété, c'est-à-dire la capacité des entreprises à produire une variété élevée d'un même bien sans occasionner de coûts irrécupérables du capital, puisqu'on arrive à avoir ces deux-là, pourquoi on ne produirait pas sur des bases beaucoup géographiques beaucoup plus restreintes? Pour comprendre cela, il faut rentrer dans la logique stratégique à l'intérieur de chaque secteur des groupes. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de division du travail à la fois cognitive sur les blocs de savoir qui permettent aux groupes d'avoir des avantages de long terme, d'être les premiers à mettre sur le marché de nouveaux produits, et puis en même temps au milieu de mettre en place des stratégies de division du travail international qui peuvent être même sanguinaires dans certains cas, comme ce fut le cas avec les chaussures de sport où on a vu au Bangladesh cet immeuble tomber sur des salariés alors que les budgets de R&D et les budgets de marketing sont élevés pour le groupe, mais pour autant sur l'assemblage de la chaussure, la fabrication des chaussures de sport de haute technologie pourtant, eh bien il n'y avait pas besoin de les fabriquer aux États-Unis ou ailleurs, on pouvait les fabriquer là. Et puis ensuite on regarde les pouvoirs publics et on regarde ce qui est fait. Et on voit que, évidemment, les groupes pharmaceutiques, par exemple, sont très sous la houlette des agences de régulation pour les prix des médicaments, pour l'efficacité des principes actifs, les tests, etc. Mais par contre, sur la traçabilité des chaînes de valeur, on retrouve cette industrie, comme pour le textile, comme pour l'électronique, ou comme d'autres produits, il n'y a aucune obligation, sinon même une interdiction pour les États d'imposer aux groupes une traçabilité parfaite de leur chaîne de valeur, parce que les codes douaniers européens ne l'autorisent pas. Et donc là, on a un premier cadre législatif qui autorise la prise de risque de la part des groupes dans des secteurs, pourtant, qui sont des secteurs dans lesquels l'impact sur la santé est très très élevé.
On a parlé depuis le début de cette émission des délocalisations de biens physiques, mais on oublie souvent les services, alors que c'est dans ce domaine, dans le domaine des services, que la tendance à la délocalisation pourrait s'accélérer dans les années qui viennent.
Je vous remercie de poser cette question. Les services avaient cette caractéristique que production et consommation, du point de vue temporel, doivent être simultanées. Hein. Quand vous avez aujourd'hui, tout le monde peut expérimenter, par exemple, la télémédecine. Ben, le service médical n'existe que quand il est consommé par le patient à distance. Et c'est exactement la même chose pour la fourniture de services à distance. Parce que jusque-là, les technologies numériques n'étaient pas là, et donc on n'avait pas cette possibilité de fragmenter la chaîne de valeur dans les services. Ce qui est nouveau, c'est que, et on va connaître un effet d'apprentissage avec le confinement qui est remarquable, chacun peut se rendre compte qu'on fait des cours maintenant par Zoom, etc. à distance, eh bien, c'est que les entreprises vont avoir tendance à fragmenter un peu plus la chaîne de valeur dans les services. Il faut savoir que au cœur de l'industrie manufacturière, vous avez en moyenne dans les pays de l'OCDE 40% des emplois qui sont des emplois serviciels. Ça peut être du marketing, de la recherche-développement, des transports, du management, etc. Tout ça, c'est au cœur de l'industrie manufacturière. 40% à peu près en moyenne. Ça va entre 25 et 65% selon les pays de l'OCDE. Et vous avez la part des services qui ont été délocalisés est passée de 10% en 2000 à quelque chose comme 18% aujourd'hui. Donc 18 à 20%. Donc on est déjà à peu près en moyenne à 20% de services qui sont sous-traités en dehors des pays de l'OCDE, c'est-à-dire dans les pays plutôt à bas salaire. Et c'est pas des services à faible valeur ajoutée, c'est parfois des services à très haute valeur ajoutée, comme l'informatique, le numérique, les technologies numériques et comme les services certains services de recherche et développement, pas la recherche en amont, mais le développement en particulier, les services juridiques, enfin il y a toute une série de choses. Et donc c'est ça qui va exploser à mon avis dans l'avenir, oui.
Et en même temps, la fracture numérique pourrait constituer un frein à la délocalisation des services. Et dans ce cas, est-ce que l'État n'a pas un rôle à jouer pour empêcher ces délocalisations massives ?
Alors, la fracture numérique, elle va opérer ce que j'appelle un processus de sélection dans le mécanisme de division du travail international. C'est-à-dire que, finalement, vous allez faire travailler qui quand vous allez délocaliser vos services de type marketing, vente, software, support, des choses comme ça. Vous allez faire travailler des pays qui ont des normes en matière d'infrastructures numériques adéquates. Il ne faudrait pas que dans un secteur comme les services où il n'y a pas de coût de transport, c'est pour ça que les délocalisations vont se développer si on fait rien. Il n'y a pas de coût de transport, il n'y a pas de coût de transaction aux échanges, si vous voulez. Eh bien, si la base infrastructurelle numérique n'est pas bonne, eh bien on ne va pas pouvoir participer à cette logique de division du travail, même si on a des gens qui sont payés moins cher, etc. Les avantages comparatifs classiques vont passer en dernier plan par rapport aux problèmes que pourraient poser les difficultés numériques d'infrastructure. Donc en fait, il va s'opérer une sélection et même une déconnexion forcée dans la mondialisation. Les pays dont les seuls avantages résideraient, c'est valable aussi pour les territoires à l'intérieur des pays développés, dont les seuls avantages résideraient dans les avantages comparatifs classiques, main d'œuvre à bas prix ou matières premières, naturelles, etc. Bien, ceux-là vont connaître, à mon avis, une déconnexion forcée qu'ils ne souhaitent pas de la mondialisation. Ça c'est un risque assez important que l'on peut voir apparaître, surtout si la crise va avoir des conséquences majeures sur les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple.
Et c'est en cela que cette crise révèle en effet un certain nombre d'inégalités. On va poursuivre cette passionnante discussion dans un instant, El Mouhoud Mouhoud. Mais d'abord, que vous soyez chez vous ou au travail, c'est l'heure pour nous de s'évader et de danser avec Mister Oiseau et Roméo Elvis.
Tu danses comme un pharmacien. 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 Tu danses comme un pharmacien, 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 pharmacien.
Pharmaciste de Mister Oiseau et Roméo Elvis. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste El Mouhoud Mouhoud pour imaginer un avenir sans pénurie de tests, de respirateurs ou de masques. Une souveraineté sanitaire est-elle possible? C'est notre sujet aujourd'hui. Alors faut-il relocaliser certaines productions en France? C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron lors d'une visite de l'usine de masques de Saint-Barthélemy d'Anjou dans le Maine-et-Loire. On l'écoute.
Pour faire face à la crise, à ces 40 millions de masques dont nous avons besoin par semaine, au moins, plusieurs décisions ont été prises. D'abord, celle d'importer massivement et vite. Plus d'un milliard de masques venant de Chine, et les commandes sont en train d'arriver, avec des commandes supplémentaires qui sont d'ores et déjà passées. Mais il nous faut aussi, et à mes yeux aujourd'hui, avant toute chose, produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production. Et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière.
Que vous inspire cette volonté du président de relocaliser la production dans des secteurs stratégiques, Al-Mouhoud, avant même de savoir si c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable ?
Bien entendu, c'est souhaitable. C'est souhaitable que l'on puisse fournir le plus vite possible, en fonction des crises sanitaires, les médicaments dont nous avons besoin, ou les tests, ou les masques. Bien entendu, c'est pas digne d'un pays développé que de se retrouver dans des pénuries qu'on a connues dans des pays en développement ou dans des pays de l'ex-bloc communiste au moment de la planification. Donc c'est quand même assez risible d'une certaine manière. Donc oui, mais être velléitaire en annonçant que finalement on va relocaliser sans donner la manière de le faire, ça pose aussi des problèmes. Il faut donner clairement au public auquel on s'adresse en leur disant, d'ailleurs de manière un peu contradictoire, parce qu'on parle à la fois de souveraineté européenne, mais en même temps de produire sur le sol national, ce qui est un peu antinomique, parce que soit on a une politique européenne de relocalisation et de recomposition, soit on a une politique nationale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et les règles européennes n'autorisent pas d'avoir des politiques ciblées sur certains secteurs au lieu de d'autres. C'est pour ça, par exemple, que le crédit d'impôt recherche est distribué à tous les secteurs. Les normes européennes n'autorisent pas non plus de réserver des marchés publics à des entreprises nationales pures, au-delà d'un certain niveau. Donc il y a des règles qui ne sont pas abordées ici dans le fait de décréter qu'on va relocaliser, alors que ça dépend très largement des stratégies des groupes. Et puis troisièmement, il n'y a pas non plus de traçabilité des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire qu'au fond, on peut très bien délocaliser et estampiller un produit fabriqué français en s'inscrivant dans le label Origine France Garantie par déclaration, mais on n'a pas le droit d'imposer dans la législation européenne, dans les codes douaniers européens aujourd'hui, on n'a pas le droit d'imposer à une entreprise ou à un secteur de tracer très clairement la fabrication, l'origine de sa fabrication. On n'a pas le droit de dire vous allez mettre un made in France. On ne pourra pas, parce que la législation européenne l'autorise pas. Parce que ça peut se faire que de manière déclarative par les entreprises.
Cette question de la bonne échelle que vous avez soulevée est particulièrement importante. La région Grand Est a par exemple lancé début avril un pacte de relocalisation et a dégagé un budget de 260 millions d'euros dans ce but. Elle a été ensuite suivie par l'Occitanie. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives régionales ?
C'est très bien, mais je crains leur caractère conjoncturel. Je veux dire que si relocaliser, c'est assurer finalement une demande collective, évidemment, ça, les entreprises vont pouvoir assurer cette demande. Mais au moment où on n'en aura plus besoin parce qu'on aura effectué les stocks qui seraient dans les administrations, pas dans les entreprises, eh bien, une fois qu'on aura effectué les stocks, eh bien, après, quelles sont les stratégies mises en place si le cadre législatif, si la politique industrielle ne change pas ? Si on n'a pas une politique réellement de relocalisation.
C'est uniquement une logique de court terme pour vous.
De court au moyen terme, ça dépend de la durée de la crise, mais il faut être un peu raisonnable. Je veux dire, si on compte uniquement sur les aides publiques, ça va s'arrêter au moment où les choses vont reprendre. On ne peut pas faire d'hypothèse sur l'après-crise, parce que il y a plusieurs logiques. Il y a des chercheurs, des scientifiques qui nous parlent d'un phénomène de durée du virus avec des reprises. Dans ce cas-là, on va s'installer plus dans la problématique de la crise. Si c'est par contre c'est un phénomène qui va être jugulé à court terme, alors on va avoir des reprises dans le monde mondial et puis les stocks vont être constitués, mais les logiques des groupes, eux, vont être des logiques habituelles. Il faut qu'ils survivent, on n'est pas dans un mode planifié ni philanthropique. Donc la course à l'innovation va se faire sur les budgets de R&D, il va falloir vendre plus que les concurrents, enfin tout ça va revenir et le cadre législatif, on n'en parle pas. Le cadre dans lequel s'inscrivent les chaînes de valeur, on n'en parle pas. La politique de concurrence européenne qui empêche de cibler les aides sur certaines entreprises, on n'en parle pas. Donc vous voyez, c'est ça un peu que je trouve un peu limité, mais peut-être que ça va venir plus tard dans les propositions.
Et puis Emmanuel Macron parle de secteurs stratégiques, mais le problème c'est que un équipement est stratégique en fonction de la crise sanitaire ou pas sanitaire d'ailleurs qui arrive, et c'est évidemment difficile à déterminer à l'avance.
Il n'y a pas de définition qui a été donnée d'un secteur stratégique. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un secteur stratégique pour une économie? C'est assez simple. C'est un secteur stratégique, c'est un secteur soit de très haute technologie, dans lequel à rendement croissance, les groupes se mènent des luttes entre eux. Soit ici, c'est stratégique au sens de l'État, et il y a deux logiques. Hein, soit stratégique au sens de la défense, donc l'aérospatiale, le nucléaire, c'est un secteur stratégique, et les médicaments, la santé, les déclarer secteurs stratégiques, il faut faire quelque chose. Ça veut dire que les considérer comme des biens communs, par exemple. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit on limite précisément les jeux stratégiques de délocalisation par la législation. Soit on prend des parts de participation dans le capital des groupes, comme on le fait avec Air France ou avec d'autres. Mais ça signifie que secteur stratégique, c'est le secteur dans lequel la collectivité est présente dans les décisions. Précisément. Or, ce n'est pas ce que j'ai entendu.
Mais si l'État prend justement des participations dans le capital de certaines firmes, est-ce que cela pourrait accélérer ces relocalisations, ou est-ce que pour vous, ces aides publiques ne suffisent pas ?
Non, alors effectivement, c'est d'abord, si on regarde les relocalisations qui ont lieu, je les suis depuis une vingtaine d'années, à chaque fois qu'il y a eu des relocalisations, les relocalisations se sont faites pour des motifs objectifs. Parce que les firmes ont pu automatiser leur chaîne d'assemblage, parce que les coûts salariaux unitaires en Chine ont augmenté, parce que le produit final qui revient quand on a délocalisé n'est pas toujours parfait. Donc c'est le cas de la vaisselle de Geneviève Létu, là, dans la vaisselle, par exemple, on perd de marché ce qu'on gagne en termes de coûts. Ça consacre l'échec des délocalisations, les coûts cachés des délocalisations. Donc à chaque fois, c'est pour des motifs tout à fait objectifs. Quand on avait fait cette étude sur la relocalisation pour le ministère de l'Industrie en 2013, on montrait que de 2005 à 2013, justement, on avait à peu près, sur le nombre de cas qu'on avait recensés comme ayant relocalisé, il n'y en avait que 6% qui avaient utilisé les aides de l'État directement à la relocalisation. Donc c'est pas dans les aides aux entreprises que les choses vont pouvoir se faire. C'est effectivement dans la législation, traçabilité de la chaîne de valeur, revoir les politiques de concurrence européenne, revenir sur la notion de bien commun. Est-ce que la pharmacie est un bien commun? Donc à ce moment-là, il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans la réflexion, associer beaucoup plus d'acteurs, les usagers, etc.
Et éventuellement élever les droits de douane pour certains produits ou certains maillons de la chaîne?
Éventuellement, mais en tout cas le faire au niveau européen, le décider au niveau européen, puisqu'on n'a pas une politique douanière nationale. C'est pour ça qu'il y a une contradiction dans les termes entre dire on va produire en France et de l'autre terme, on va avoir une souveraineté européenne. Non, on est dans le code de l'union douanière, on a une union, on fait partie de l'union douanière, c'est la Commission européenne qui négocie pour la France à l'OMC, pas la France, et donc en fait, si on n'a pas une stratégie justement européenne de relocalisation en Europe, on aura un certain nombre de difficultés. Sachant que quand même, il y a que, encore une fois, 6% des importations qui viennent hors extra-européenne pour les produits intermédiaires, le reste venant plutôt de l'intérieur de l'Union européenne. Donc il faut aussi un petit peu nuancer, sauf pour les médicaments, effectivement, et pour l'industrie pharmaceutique, où vous avez cette dépendance de peu d'acteurs sur deux pays, l'Inde et la Chine, donc avec des risques effectivement de rupture d'approvisionnement, mais aussi des risques d'opportunisme de la part des fournisseurs, quand on dépend de peu d'acteurs. Mais jusqu'à présent, le jeu en vaut la chandelle pour les groupes pharmaceutiques, jusqu'à faire prendre des risques collectifs. Et ce jeu qui en vaut la chandelle, c'est comment financer des budgets de R&D élevés, distribuer des rendements aux actionnaires, assurer des budgets de marketing extrêmement élevés. On utilise la main d'œuvre qualifiée, diplômée, etc., chinoise et indienne, payer deux fois moins cher. Donc en fait, ça autorise des comportements de marge pour assurer ce genre de choses. Et ces comportements de marge, on peut pas les chasser uniquement par déclaration. Dans ce cas-là, effectivement, revoir la législation européenne, ça c'est absolument nécessaire. Quelle est la stratégie proposée? Et puis, revoir la manière dont les choix des groupes, si on a défini un secteur stratégique comme un bien commun, ben dans le choix des groupes, sont autonomes par rapport aux besoins de la collectivité. Et dans ce cas-là, effectivement, est-ce que la prise de participation, même minoritaire, on peut avoir des minorités de blocage, dans les groupes comme Sanofi ou autres, est-ce que c'est une solution qui est envisagée? Donc il y a quelque chose qui est un impensé face au déclaratif, qui peut devenir dangereux parce que l'on peut opérer des illusions qui correspondent pas d'ailleurs à un diagnostic très précis, et on peut aussi favoriser une sorte de populisme ambiant alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de recomposer des chaînes de valeur, des filières industrielles pour redevenir compétitif dans l'ensemble des filières. Je vous rappelle que le vrai problème, c'est la France par rapport à l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne a bien des filières complètes. Pourquoi en France, on a des trous dans la raquette?
Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société.
Je suis licenciée ?
Effectivement. Mettre un terme au contrat de travail se solde par un licenciement habituellement, et c'est la solution la plus classique. Mais il y en a d'autres. Comme notre groupe se délocalise, vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production, au Maroc. Je me dois de vous informer de cette possibilité, mais ce n'est pas la solution la plus avantageuse pour vous.
Au Maroc?
Oui. Les coûts de production sont beaucoup plus bas.
Il parle de domaine de compétences ici. J'ai eu un CAP dans un autre domaine. Je peux le préciser?
Oui. Oui, si vous voulez. Mais on vous demande vos compétences dans le textile. Conditionnement, couture, manutention, je crains que ça ne serve à rien de vous étendre sur votre CV.
C'est bien. C'est très bien.
Vous pouvez me rappeler votre nom?
Clerval. Edith Clerval.
Vous avez des indemnités confortables? Je ne suis pas certaine que vous gagnez quoi que ce soit à partir là-bas.
Ben, ni de rester ici toute seule au chômage. Là-bas, au moins, je travaillerai.
Oui, mais sur un salaire calculé sur la base des locaux. Avec un ajustement, mais de vraiment pas grand-chose.
Magnifique Sandrine Bonnaire dans le film de Gaëlle Morel, Prendre le large, sorti en 2017. L'actrice y joue une ouvrière de 45 ans, Edith Clerval, qui décide donc de suivre son usine lorsque celle-ci se délocalise au Maroc. Et même si c'est bien connu, il est toujours bon de rappeler les flagrantes différences de traitement et de salaire entre le pays d'origine et le pays d'arrivée, El Mouhoub Mouhoud, même si ces différences tendent à se réduire avec notamment l'augmentation des salaires en Chine.
Oui, oui, c'est pour ça que on n'assistera pas nécessairement à des relocalisations sur des bases nationales, mais à des relocalisations régionales à proximité des marchés. Je vois que j'ai cru voir dans la presse que le Maroc paniquait un peu par rapport aux annonces sur les relocalisations, mais finalement, il y a une carte à jouer pour les pays du sud de la Méditerranée qui est de s'insérer dans les chaînes de valeur, dans les services en particulier dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est pas une relocalisation stricto sensu. Je définis les relocalisations de deux manières. Une première forme, c'est le retour des unités de production, de montage ou d'assemblage antérieurement délocalisées dans les pays à bas salaire, qui reviennent dans le bassin d'emploi à l'origine. Et puis, il y a des relocalisations au sens large. C'est la relocalisation à proximité des marchés. Par exemple, une entreprise belge de textile, de bonneterie, avait délocalisé à Bombay. Elle est revenue à Roubaix, en France. Et voilà, une relocalisation au sens large, pas forcément dans le pays d'origine. Ou alors on peut revenir dans les pays d'Europe centrale orientale, dans les pays, par exemple, des firmes américaines reviennent au Mexique, et pas aux États-Unis nécessairement, après avoir quitté l'Asie. Donc vous avez des relocalisations régionalisées au sens large, ou des non-délocalisations, parce que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la non-délocalisation, qui est une forme de relocalisation au fond. C'est le ralentissement de la délocalisation pour des motifs de différence de coût de production dans des domaines concurrencés par les pays à bas salaire ou les pays émergents. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que la plupart des entreprises ne délocalisent pas. Parce que là aussi, c'est un impensé. Si on a des difficultés, c'est pas seulement parce que les entreprises ont délocalisé. Il y a que 5% des entreprises en France qui ont délocalisé. Enquête INSEE 2013. Si vous, sur les 28 000 entreprises non financières. Donc c'est pas au niveau macro que le problème se pose. C'est au niveau local. On a fait une étude, là, qui a été publiée en 2017 dans Économie et Statistiques sur la vulnérabilité des territoires face au choc des délocalisations. Eh bien, on a montré qu'il y avait quelques territoires seulement qui étaient extrêmement concernés. Et comme vous avez des problématiques de compensation de ces chocs, eh bien, même si globalement c'est pas énorme, au niveau local, on peut avoir 80% des emplois qui disparaissent si une entreprise disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ben, après, il se passe que les gens sont verrouillés sur place. Ils peuvent pas aller dans un territoire où ils auraient besoin et on aurait besoin d'eux parce que ça coûte cher en logement, parce qu'il y a de l'éducation, parce que la mobilité ne se décrète pas non plus. Ils ne peuvent pas aller dans un autre secteur, comme c'était dans le cas de ce film cité, parce que la réaffectation par la formation, ça prend du temps, alors que le choc de la délocalisation, lui, il est de court terme. Donc il y a des véritables problèmes de compensation des chocs locaux. des délocalisations qui sont pas bien pensées encore. Il n'y a pas beaucoup de mesures. Nous, on a préconisé précisément un observatoire d'anticipation des chocs pour les prévenir plutôt que d'intervenir après coup, une fois que le choc a eu lieu. Ça, c'est une façon de définir une politique de défensive contre les risques pris par certains territoires et par les travailleurs de ces territoires concernant les délocalisations. Et puis, une autre politique qui a un tout autre objectif, c'est une politique justement stratégique au sens technologique pour reconquérir la compétitivité industrielle européenne et française dans les domaines qui sont manquants. Et là, il faut des politiques de filière, il faut investir dans la recherche et développement, il faut aussi concentrer la recherche et développement sur les bons secteurs, mais pour ça, il faut revenir sur la législation européenne. Et il y a toute une série de choses qu'on peut faire, évidemment, pour renforcer la compétitivité industrielle et réduire la délocalisabilité. Ça, c'est plus intéressant que de se dire, ben, il y a des entreprises qui sont parties, qui vont revenir, et c'est ça qui va nous permettre de régénérer l'offre française de manière compétitive. Non, c'est plutôt freiner les délocalisations.
Alors que depuis quelques années, la réponse passe plutôt par du protectionnisme, notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine. Et il y a cette volonté du gouvernement chinois de détenir 80% de son marché domestique, un marché qui est très convoité par les Occidentaux. Et donc ça, c'est l'autre maillon de la chaîne qu'il faut observer.
Oui, absolument. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, si vous prenez, je citais tout à l'heure l'industrie de la chaussure du sport, vient d'apparaître un concurrent mondial à Nike, Adidas, etc., chinois, uniquement grâce, précisément, comme un collatéral, finalement, de la politique anti-chinoise américaine. Et ce groupe a profité du marché intérieur chinois et des classes moyennes chinoises, des jeunes en particulier, qui considèrent ce produit comme une sorte de « made in China » patriotique. Et ce groupe est en train d'émerger comme un groupe mondial, concurrençant encore une fois les groupes comme Adidas ou Nike. Donc il y a bien un retournement. Effectivement, on voit bien dans les statistiques d'ailleurs du commerce international, on voit bien que le retournement des chaînes de valeur, la réduction de la re-régionalisation des chaînes de valeur est due en grosse partie à la réduction de la part des produits chinois assemblés en Chine dans les exportations chinoises. C'est-à-dire que les Chinois jouent moins cette carte qu'on appelait l'atelier du monde autrefois et développent davantage leur marché intérieur. Il y a bien un changement de régime de croissance chinoise qui va avoir des implications, en effet, pour l'économie mondiale. Et cela dit, ce protectionnisme-là ne va pas freiner la deuxième forme la plus importante des délocalisations, qui est la délocalisation d'accès au marché, les investissements directs à l'étranger. Pourquoi ? Parce que, précisément, les coûts de transport, les coûts de transaction aux échanges, les droits de douane jouent à la défaveur de la fragmentation des chaînes de valeur, c'est-à-dire les délocalisations dont on parlait tout à l'heure, les délocalisations verticales pour baisser les coûts et réimporter le produit final. Ça, c'est limité par les coûts de délocalisation, les coûts de transaction, les coûts de plus en plus, si on a du coût carbone qui va devenir de plus en plus élevé, ça va rétracter les chaînes de valeur sur des bases locales ou régionales, ça c'est certain. Mais par contre, pour accéder au marché, si les coûts de protectionnisme deviennent trop élevés, si les coûts de transport deviennent trop élevés, l'exportation n'est plus la meilleure façon d'accéder aux marchés mondiaux, et pourtant il faut aller chercher les marchés là où ils se trouvent, et bien là on va sauter les barrières par l'investissement à l'étranger.
Est-ce qu'on voit en Ile-de-France, dans les deux projets d'usines de fabrication de masques au Blanc-Mesnil et à Lieusaint qui sont sur la table, c'est que ce sont des investisseurs chinois dans un cas, japonais dans l'autre. Donc ça illustre bien l'importance des investissements directs à l'étranger dans la mondialisation dont vous parlez.
Tout à fait, et regardez Toyota qui fabrique en France. C'est comme une relocalisation finalement. Qui fabrique en France des automobiles aujourd'hui de manière qui est compétitive? Vous avez Toyota. Le problème, si vous voulez, c'est que on conclut trop rapidement sans avoir un diagnostic précis des choses. Donc on fait comme si la mondialisation c'était uniquement les délocalisations dont on parle, de masques, de textiles, d'habillement, etc. En fait, il y a 5 composantes à la mondialisation et toutes n'avancent pas au même rythme. Donc il y a bien ces délocalisations verticales, ces fragmentations de chaînes de valeur qui reculent. Les investissements directs ont reculé depuis 2010 pour les motifs de crise et c'est aussi lié à la finance, mais ça continue à être quand même une dynamique de la mondialisation très forte. La finance est encore extrêmement mondialisée et peu régulée depuis la crise de 2008, donc elle continue à tirer à la mondialisation. Et puis les technologies et la connaissance sont la quatrième composante de la mondialisation qui continue aussi à se développer. Et puis enfin les migrations internationales de qualifiés qui sont aussi une autre composante de la mondialisation dont les besoins se font sentir massivement sur les travailleurs qualifiés en particulier. Donc en fait, on n'a pas un monde qui se démondialise et qui se recontracte sur des bases nationales, contrairement à ce qu'on entend ça et là. On a un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus fragmenté, et selon les logiques de mondialisation, vous avez des perdants et des gagnants.
El Mouhoub Mouhoub, quid des consommateurs? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter les conséquences des relocalisations et notamment les hausses de prix?
Alors là aussi, il faut regarder les secteurs, si vous voulez. Hein. Je pense qu'on peut relocaliser sans problème dans les secteurs pour lesquels il n'y a pas encore une fois d'obstacle technique à l'automatisation. Automatiser, réduire les coûts unitaires, c'est réduire aussi les prix. Par contre, dans les secteurs dans lesquels les chaînes de valeur sont recontractées très fortement, prenons l'agroalimentaire, si on veut une production extrêmement de qualité avec des circuits très courts, ce que tout le monde souhaite, il faut bien faire attention aux effets inégalitaires que ça crée. Vous ne pouvez pas imposer à des consommateurs dont les revenus sont très bas de consommer un produit, le même produit, je ne sais pas moi, une tomate qui vaut 3 euros plutôt qu'une tomate qui vaut 1 euro. Donc il y a bien finalement un risque inégalitaire de la consommation relocalisée dans ce secteur de l'agroalimentaire, pourtant souhaitable. Et s'il n'y a pas de politique là aussi d'accompagnement, il faut se poser la question de savoir qui paye le différentiel de prix. C'est pareil pour les médicaments. Si les médicaments étaient amenés à être fabriqués plus cher, ça veut dire que les groupes vont exiger, s'ils restent dans l'état actuel de la concurrence, ils vont exiger évidemment des prix plus élevés auprès des autorités de régulation. Et qui va payer le surplus du prix? Est-ce que on va créer un ticket modérateur, ce que je ne souhaite pas évidemment, de la sécurité sociale? Est-ce qu'on va faire, comment on socialise ces augmentations de prix?
Un certain nombre de consommateurs pourraient être perdants, mais il y a aussi peut-être d'autres grands perdants de ce processus de relocalisation. El Mouhoub Mouhoub, ce seraient les pays en développement qui pourraient souffrir de ce phénomène?
Oui, alors c'est pour ça que je parle de déconnexion forcée. Hein. Il y a des possibilités que des pays qui ont mis leur stratégie de développement sur la sous-traitance de segments d'assemblage, de montage, on a vu dans la Tunisie, ça a été un véritable échec, hein, ou dans l'agroalimentaire, eh bien, puissent effectivement être déconnectés. Et si pour la France ou pour l'Europe, le commerce avec les pays méditerranéens, par exemple, c'est pas grand-chose, pour ces pays, le commerce avec la France est fondamental. C'est très ancré sur l'Europe et la France. Donc, lui, les risques de perte, dont l'agriculture marocaine, par exemple, effectivement, risque de subir les conséquences, mais aussi l'Espagne, le Portugal. Encore une fois, les approvisionnements sont davantage intra-européens qu'extra-européens, mais effectivement, pour les pays périphériques de l'Europe, du sud de la Méditerranée, le risque de perte et de déconnexion est fort, et c'est le cas aussi pour les pays d'Afrique subsaharienne, probablement que cela va freiner les possibilités pour eux de se développer par le biais de l'insertion dans les chaînes de valeur. Mais il y a aussi des nécessités pour ces pays de faire la substitution à l'importation, de produire localement pour la demande locale, etc. Donc c'est pas si simple.
Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que la mondialisation se reconfigure en fonction du principe de précaution, et cela passerait par une diversification des pays d'approvisionnement et des fournisseurs?
Oui, alors ça par contre, moi je pense que les firmes vont le faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'apprentissage de la crise, et les coûts cachés de la dépendance de peu de fournisseurs va se traduire par le fait que les firmes vont rechercher une diversification de leurs approvisionnements. Parce que ça remettra pas en cause le rapport dont je parlais tout à l'heure entre les coûts et les prix, et les marges. Donc, tant qu'elles peuvent mener cette politique de division du travail, de double division du travail cognitive et taylorienne à l'intérieur pour à la fois s'assurer la mise sur le marché de produits nouveaux par l'innovation et la recherche et développement, et financer ses budgets de R&D, et en même temps distribuer des dividendes aux actionnaires, diversifier leurs fournisseurs, ça va avoir un coût peut-être supplémentaire, mais assez faible réellement, par rapport à une situation dans laquelle elles auraient à relocaliser complètement en France, par exemple. Donc, cette politique de diversification des fournisseurs, c'est déjà ce que l'on observe dans les entreprises qui font ce que j'appelle des délocalisations itinérantes. Quand les coûts augmentent quelque part, elles vont changer très vite. Alors ça, on peut pas le faire dans la pharmacie et dans l'électronique, parce qu'on a besoin de fournisseurs qui font de la bonne qualité, qui sont compétents, etc., qu'on sélectionne énormément. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé, les groupes pharmaceutiques dépendants de quelques fournisseurs en Chine et en Inde. Parce que assurer des coûts plus bas, mais des qualités de productivité et de compétences de la main-d'œuvre très qualifiée, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à l'Inde parce qu'ils ont beaucoup investi dans le secteur pharmaceutique, ils sont bons. C'est donné en Chine aussi, des pays émergents à capacité technologique élevée. Donc si vous voulez, la contrainte pour les pharmacies, etc., elle demeurera importante si on réactive pas de nouveaux fournisseurs en Europe, proche de l'Europe. Et là, peut-être que la politique publique peut y inciter.
Un dernier mot sur cette souveraineté sanitaire que beaucoup appellent de leur vœu en Europe. Les pénuries et les problèmes d'approvisionnement en matériel aussi essentiel que des matériels médicaux obligent aujourd'hui nos gouvernements à repenser la réindustrialisation des territoires. Il y a tout un débat qui va devoir être lancé sur ce sujet.
Oui, alors là aussi, sur la réindustrialisation des territoires, il y a une ambiguïté. Est-ce que les politiques de réindustrialisation proviendront des relocalisations? Pas nécessairement, parce que quand on relocalise une unité de production, on ne recrée pas les emplois perdus lors des délocalisations. Si j'ai délocalisé 10 emplois, je relocalise un emploi. Parce que justement, si je relocalise, c'est parce que j'ai trouvé des méthodes technologiques qui nous permettent de fabriquer un coût par unité produite similaire ou meilleur. Donc il ne faut pas confondre réindustrialisation et relocalisation. Parce qu'on peut avoir de la relocalisation sans réindustrialisation. La réindustrialisation, c'est quoi? C'est le contraire de la désindustrialisation. Et la désindustrialisation, c'est la chute finalement structurelle de la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total. Et en France, on est arrivé à 11% de l'emploi total industriel. Dans l'emploi total, contre à peu près 18% en Allemagne. Donc on a un écart par rapport à l'Allemagne qui est tout à fait considérable. Donc là, ça pose quoi comme problème? Ça pose des problématiques de réindustrialisation des filières, donc des politiques de filières à l'échelle nationale. Et comme ça ne peut pas se faire à l'échelle nationale si on souhaite avoir une stratégie européenne, eh bien ça peut se faire qu'au niveau européen. Donc penser des politiques mutualisées de filières européennes dans différents domaines. Ça, c'est une chose. Après, il y a la question des territoires. Et la question des territoires, c'est la question plutôt de savoir comment on fait pour accompagner les territoires performants. Et il y en a. Nous, on a cartographié ça dans l'étude dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, il y a des territoires qui tirent leur épingle du jeu de la mondialisation, qui sont des territoires qui sont, par exemple, dans l'est de la France, qui font des bonnes délocalisations. Un peu comme les firmes allemandes, hein, c'est-à-dire qu'elles se fournissent en biens intermédiaires dans des pays voisins, à plus faible coût, mais à qualité élevée. Et elles, par contre, l'assemblage se fait en France. Elles exportent beaucoup. Et la qualité du travail, etc., est très importante. Et ces zones d'emploi, ces territoires-là, sont entourés de territoires de services aux entreprises qui sont aussi excellents. Donc une sorte de division géographique du travail qui font qu'on a toute une série de zones d'emploi qui tirent leur épingle du jeu de la mondialisation qu'on a appelé les zones de performance extérieure. Il y en a quelques-unes quand même et qu'il faut aider. Après, vous avez des zones d'emploi, des territoires qui sont dans des situations très difficiles puisque c'est ce que j'appelle les zones mono-industrielles qui abritent des activités extrêmement vulnérables à la mondialisation, qui sont esselées. Par exemple, mettez une entreprise textile ou une entreprise de centre, même un centre d'appel qui risque d'être délocalisé. S'il n'y a que cette activité-là, le choc de la délocalisation sera élevé. Dans ce cas-là, il faut avoir une politique d'anticipation de ce choc avant qu'il n'arrive. Donc, il faut séparer les objectifs. Les objectifs de compétitivité et les objectifs d'anticipation des chocs et de vulnérabilité, c'est-à-dire de prévenir contre la vulnérabilité de l'emploi. C'est, si on les mélange, on est amené à faire un peu n'importe quoi. Et donc là, effectivement, il y a des marges de manœuvre pour mener des politiques de régénération des territoires à travers les services, l'agroalimentaire, l'agriculture, en regardant la cartographie précise de ce que les territoires abritent et en jouant non pas sur les secteurs eux-mêmes, mais sur le contenu en emploi, la qualité de l'emploi, la qualification, la formation. C'est pour ça qu'il faut aussi revoir la manière dont on distribue les aides publiques au territoire. Je ne parle pas du crédit d'impôt recherche cette fois, mais je parle des aides en général. Les aides directes aux entreprises se sont avérées relativement inefficaces par rapport aux aides aux facteurs de production. Ce que j'appelle les aides aux facteurs de production, c'est les aides à la formation, à la qualification, aux travailleurs et aux institutions locales du territoire qui abritent des activités performantes ou industrielles.
Merci beaucoup, El Mouhoub Mouhoud, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et un immense merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, ainsi qu'à Inès de Brune à la technique, au fameux CDM qui permet d'enregistrer nos émissions à distance, et à Jean-Marc Klaus. On se quitte avec un titre extrait du dernier album de Ro, Nouveau Monde. L'album, lui, s'appelle Room with a View, une chambre avec vue, on en rêve. Demain, on se demandera ce qui ne fonctionne pas dans notre système de santé. Est-ce simplement un problème d'argent, de répartition, de prévention? On posera la question aux sociologues Patrick Castel et Fanny Vincent. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver la compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci d'avoir été à l'écoute et à demain.
Soyons sérieux, il s'agit de mesures coercitives sur la consommation débridée, pas sur nos modes de vie, pas sur ce qu'on aime, pas sur ce qu'on lit, pas sur les gens qu'on va fréquenter, pas sur nos opinions politiques, pas sur nos opinions érotiques, éthiques, esthétiques, philosophiques, ontologiques, métaphysiques. On pourrait rester libre sur tout ça. Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel. C'est quand même pas la fin du monde.
Tu crées des personnages, tu crées un monde, tu crées un univers dans lequel tu vois des gens vivre de façon décroissante, avec des low-tech, avec des permacultures, dans un monde écologique intéressant, mais qui soit pas un monde de retour à la bougie.
Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre.
Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement ne va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout d'un coup, ta perception a tourné.